Alléluia, Seigneur, merci pour ta puissance de vie qui coule dans cette colonne vertébrale et qui remet les choses en place. Alléluia, là où elles doivent être mises en place. Merci pour tes mains percées.
Amen.
Tu as assez souffert. Seigneur, louange à toi, Seigneur. Nous te rendons gloire et puissance. Louange à Jésus, le ressuscité, le vivant. Louange à Jésus. Alléluia, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia, alléluia. Aussi amiga, Lucia.
Prince de la vie.
Et aussi l'Iglia, aussi la galère.
Le prince de la vie, alléluia.
Nomi Sinia Kulishian.
Apporte ta louange, ta reconnaissance au Seigneur. Il attend cela de toi. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Regarde à ton sauveur. Dis-lui que tu l'aimes. Dis-lui qu'il est ton sauveur et ton maître. Et que tu es à lui pour l'éternité.
Et le Seigneur touche quelqu'un qui a des migraines, parfois terribles. Et tu ne t'en sors pas. Toujours, ça revient. Et ça revient encore. Et ça revient encore. Mais la main du Seigneur, ce matin, se pose sur toi. Alors prends cette guérison qu'il te donne. Prends-la et dis merci. Merci, Seigneur. Et que ces migraines s'éloignent de ta tête. Toujours! Par la puissance du nom de Jésus. Cette puissance qui est au-dessus de toutes les puissances. Alléluia, croyant à la guérison du Seigneur. Il a porté nos infirmités, toutes nos maladies, toutes nos infirmités à la croix de Golgotha. Nous pouvons nous confier en lui. Il est vivant. Oh, il nous aime. Il veut nous aider dans nos infirmités, Seigneur. C'est pour nos infirmités qu'il est mort aussi. Alléluia. Seigneur,
loué
sois-tu. Alléluia.
Alléluia.
Alléluia. Et le Seigneur a une parole prophétique à donner il y a quelques années. Le Seigneur m'avait donné cette vision d'un rocher, c'est lui-même bien sûr, au milieu d'une mer en furie. Et le Seigneur me rappelle cela et nous dit, aujourd'hui mes enfants, vous savez ce que c'est qu'une mer en furie, plus qu'avant. Eh bien, je vous dis, ne regardez pas à la mer en furie, quelle qu'elle soit, mais continuez de fixer vos yeux sur ce rocher que je suis pour vous, dans lequel vous pouvez vous abriter, ne perdez jamais de vue ce rocher-là. Et sur ce rocher était dressée une croix. Et cette croix, au milieu de ce rocher, était éclairée par une lumière divine. Et le Seigneur dit, nous serons toujours éclairés face à nos circonstances si nous regardons à cette croix lumineuse sur le rocher qui est Jésus. Alléluia. Parce que la croix est intimement liée au rocher et le rocher est intimement lié à la croix. Jésus est intimement lié à la croix sur laquelle il a souffert. Et nous ne pouvons pas prendre cette croix sans prendre Jésus avec. Et nous ne pouvons pas prendre Jésus sans prendre cette croix avec. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur. Tu seras toujours pour nous cette croix lumineuse. Seigneur, une mer en furie ne doit pas nous épouvanter. Nous devons garder nos yeux fixés sur toi. Sois béni, Seigneur. Sois adoré, Seigneur. Tu es le maître de toutes circonstances. Garde-nous de sombrer dans le découragement, dans l'incrédulité. Nous voulons toujours, à nouveau, s'il nous arrive de douter, s'il nous arrive de trembler, toujours à nouveau, lever nos têtes. Car notre rédemption approche.
Merveilleux.
Amen, Seigneur.
Amen. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Restons dans cette sainte présence du Seigneur. Seigneur, merci de nous visiter, de nous toucher. Nous t'avons béni et tu nous bénis aussi maintenant.
Amen. Amen, Seigneur.
Nos yeux sont sur toi.
Loué sois-tu.
Alors que nous allons ouvrir ta parole, enseigne-nous tes voies. Nous avons tant besoin de cette parole de Dieu qui est la nourriture pour notre âme, qui est aussi une lumière sur notre sentier et aussi un baume sur nos plaies, nos blessures. Que ta parole soit comme une huile ce matin pour illuminer notre intelligence, éclairer notre esprit. Et qu'il y ait en nous un esprit d'obéissance à cette parole.
Oui.
Afin qu'elle porte du fruit et un fruit qui demeure.
Oui. Amen.
Merci, Amen. Seigneur.
Merci.
Oh, nous t'aimons et nous t'adorons.
Nous
te donnons toute la gloire. Amen.
Amen.
Restons dans ce recueillement. Et nous allons méditer quelques instants la parole de Dieu sur un sujet qui est très important pour chacun d'entre nous. C'est le sujet de la communion fraternelle. Il y a un mot grec qui parle de cette communion, c'est le mot koinonia, et qu'on retrouve dans plusieurs endroits. Koinonia. Nous allons voir quelques passages et voir exactement comment vivre une vraie communion. Je pense que c'est le désir de tous. Et dans chaque église, il devrait y avoir cette vraie communion. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Et ici aussi, nous faisons partie de l'église. Nous sommes le corps de Christ ici aussi.
Amen.
Ici aussi, nous voulons
Amen.
Vivre une vraie communion mm-hmm. fraternelle.
Amen.
Ce n'est pas seulement un centre de conférence
mm-hmm.
ou un club.
Mm-hmm.
C'est une koinonia. C'est un lieu de communion
Amen.
Fraternelle et spirituelle. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Il y a dans ce mot-là plusieurs sens. J'aimerais vous les donner, mais d'abord comme texte de base, le passage que vous connaissez tous bien, Actes 2, 42, à partir du verset 41, Actes 2, 41, « Ceux qui reçurent de bon cœur sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévérait dans l'enseignement des apôtres. Et ensuite, qu'est-ce que vous avez? Dans la communion fraternelle. Voilà ce mot ici, communion, veut dire koinonia. Mais le mot fraternel n'est même pas dans le texte grec. Parce que c'est beaucoup plus vaste, beaucoup plus riche que simplement le mot fraternel. Parce que souvent, quand on lit cela, on pense que bon, c'est simplement lié à la communion fraternelle, et on s'arrête là. Ce mot est beaucoup plus riche que cela. Et ensuite, il est dit, dans la fraction du pain et dans les prières. Alors, les premiers chrétiens vivaient dans cette koinonia, dans cette communion. Il faut savoir d'abord ce que ce mot veut dire dans le grec. Et du temps des Grecs, à quoi ça correspondait? C'est important, n'est-ce pas? Si on ne le sait pas, on pense qu'on est en communion alors qu'on ne l'est pas du tout. On pense qu'on vit une certaine communion qui n'est pas du tout une vraie communion biblique. J'entends biblique. Alors ce mot a plusieurs sens. On va le résumer après dans trois sens précis. Mais ce mot veut dire... signifie une association, une koinonia, c'est une association. Quand on s'associe, c'est pour un but précis, n'est-ce pas? C'est une association. Ensuite, c'est un partenariat. Quand on dit qu'on est dans la communion fraternelle, ça veut dire qu'on est dans un partenariat. Première nouvelle, jamais été dans un partenariat, même. Dans une association, mais je suis pas dans une association. Ah, voilà pourquoi. Tu réagis comme ça parce que tu n'en connais pas le sens. Une communion, ça veut dire aussi communion, mais aussi une contribution. Koinonia, communion veut dire contribution. Moi, je contribue à rien du tout. Alors, tu ne vis pas la vraie communion telle que la Bible l'entend. Et ensuite, participation. Dans le mot grec koinonia, communion, il y a une participation. Alors, voyez-vous, quand on vit cette communion fraternelle, prenons l'exemple d'ici, c'est un exemple comme ça doit se faire dans toutes les assemblées chrétiennes, il doit y avoir cette participation. Et avez-vous remarqué, pendant des années, je l'ai malheureusement remarqué, dans pratiquement toutes les communautés chrétiennes, est-ce que tous participent, par exemple, à la louange et à la prière? Vous le remarquez, il y en a toujours deux ou trois, quatre ou cinq, et c'est toujours les mêmes. Et les autres sont toujours dans le silence. Ils ne participent pas. Et quand on ne participe pas, on ne peut pas vivre la communion telle que Dieu l'entend. Et cela, on doit le savoir. La timidité n'existe plus là. Quand on sait que Jésus est notre sauveur, on a une responsabilité. Voyez-vous déjà le sens de ce mot-là? Et dans ce mot-là, nous allons le résumer à trois choses. Il y a un triple sens dans la communion spirituelle, biblique. Le premier sens, c'est une communion avec Dieu. La koinonia avec Dieu. Les Grecs utilisaient ce mot-là pour utiliser quand ils parlaient de Dieu ou de leurs idoles. C'était une koinonia avec Zeus, avec tous leurs idoles. Il parlait de koinonia, donc d'une communion avec, et l'apôtre, et la parole de Dieu parle, nous parle de cette communion avec Dieu, avec son Fils Jésus-Christ, et une communion dans le Saint-Esprit. Le deuxième sens, c'est une communion fraternelle, un partage fraternel. Deuxième sens, c'est le partage fraternel, où il y a une participation, une contribution, une association. Vous voyez comme c'est riche. Et le troisième sens, c'est un partenariat. Un partenariat pourquoi? Pour annoncer l'Évangile. On est partenaire, et le mot partenaire, que Paul utilise par exemple dans Philippiens 1, 3, sauf erreur, on reviendra après, c'est le mot koinonia, qui veut dire être partenaire pour un but précis, pour prêcher l'Évangile. Et il dit aux Philippiens, vous avez été avec moi des partenaires dans l'annonce de l'Évangile. Donc vous voyez, quelqu'un qui connaît la vraie communion biblique, c'est quelqu'un qui est aussi un partenaire pour le salut des âmes. Inconnu au bataillon, moi je fais, j'ai rien de tout ça. C'est un partage dans le deuxième sens, un partage, partage rien du tout. C'est une contribution, aucune contribution. Voyez-vous comme le sens est très riche. Et les Grecs aussi, c'est dans les commentaires bibliques que j'ai lu cela, les commentateurs, quand ils utilisaient koinonia, c'était le mot par excellence pour expliquer la vie idéale. Chez les Grecs, quand quelqu'un vivait une koinonia, c'était la vie idéale. Et Dieu veut pour nous une vie idéale. Dans notre foi avec le Seigneur, dans notre communion avec lui, dans notre communion entre les frères, et dans notre partenariat pour annoncer l'Évangile. C'est la vie idéale. Et si nous ne comprenons pas tout ce sens-là, alors nous sommes frustrés. On est là toujours pour attendre quelque chose, mais on ne fait jamais notre part. Et en attendant toujours des autres, on est là comme des mendiants. Et on est étonné que Dieu ne nous donne pas toujours ce qu'il faudrait. Mais Dieu veut nous apprendre la koinonia. Et j'ai noté ici ce que ce mot veut aussi dire. La koinonia met l'accent particulier sur la proximité de la relation. Quand on vit une communion entre nous, une koinonia, une communion, il y a une proximité. Il y a une certaine intimité. Et c'est ce qu'il y avait parmi les premiers chrétiens. Et malheureusement, dans beaucoup d'églises, où avait cette koinonia? On rentre dans l'église, on s'en va. Les uns ne se saluent même pas. Il y en a qui viennent et qui n'osent même pas regarder certains chrétiens et qui s'en vont comme cela. Est-ce là la vie idéale de l'Église? Est-ce là la vie que le Seigneur a voulu? Certainement pas. Certainement pas. Il y a donc une proximité. Comme on disait les premiers chrétiens, voyez comme ils s'aiment. Mais ce n'était pas un amour sentimental comme on l'entend aujourd'hui. C'était un amour fondé sur l'enseignement des apôtres. Avez-vous remarqué? Quand on a lu tout à l'heure, avant la communion, qu'est-ce qu'il y a? L'enseignement des apôtres. La vraie communion, si nous voulons la vivre, il faut qu'elle soit biblique. Il faut que l'enseignement de la parole soit annoncé. Et dans la mesure où cet enseignement pénètre nos cœurs, nous aimons le Seigneur, nous obéissons à sa parole. Et quand on est vraiment amis avec le Seigneur, alors on peut être amis l'un et l'autre. Mais il n'y a pas de vraie amitié entre nous, mes amis, si vous n'êtes pas, si je ne suis pas d'abord ami du Seigneur. C'est impossible. Et voilà pourquoi certains ne s'entendent pas, même dans l'Église. Parce qu'il n'y a pas cette amitié avec le Seigneur. Cette communion, cette proximité, plus nous serons près du Seigneur, plus nous serons près l'un de l'autre. N'est-ce pas vrai? C'est valable dans un couple aussi. Plus le couple vit près du Seigneur, plus ils vivront l'un près de l'autre. Si le couple ne vit pas près du Seigneur, alors ils ne vivront pas près l'un de l'autre. Et dans l'Église, c'est la même chose. Si nous vivons près du Seigneur, les uns et les autres, mais automatiquement, nous allons vivre près des uns des autres, n'est-ce pas vrai? Mais dans l'enseignement des apôtres, dans cette communion, on ne dit pas n'importe quoi, on ne fait pas n'importe quoi. Et ces premiers disciples étaient là, dans la sagesse de Dieu, le discernement de Dieu, dans le véritable amour divin. Il y a d'abord cette communion avec Dieu. J'ai noté quelques références, je ne vais peut-être pas m'attarder là-dessus, mais la première référence concernant la communion avec Dieu, c'est 1 Jean 1.3. 1 Jean 1.3, juste peut-être lire le passage. Disons les trois premiers versets, on peut les lire. Voici ce que Jean dit. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons constaté. Regardez cette communion qu'il y a là. Et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Et la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père, et nous a été révélée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous ayez aussi une communion, voilà, koinonia, avec nous. Or, notre communion, regardez le mot ici, koinonia encore, est avec le Père et avec son Fils. Et nous vous écrivons ces choses afin que votre joie soit parfaite. Voyez-vous, la première koinonia, communion, c'est avec le Père et avec le Fils. Combien de fois nous entendons même des païens qui disent qu'ils sont en communion avec Dieu, qui parlent à Dieu et tout ça? Attention,
Ça, c'est qu'à sens unique, ça. Ils parlent, mais est-ce que Dieu leur parle? Ils ne parlent qu'au mur. Je veux dire, Dieu peut entendre, mais il n'y a pas de koinonia. Il n'y a pas de communion. La communion vient lorsqu'on est né du Saint-Esprit.
Eh oui.
Tant qu'une personne n'est pas née du Saint-Esprit, cette personne est morte dans ses péchés, nous dit la Bible. Et qu'entendons-nous aujourd'hui que nous avons une étincelle divine en nous? L'enseignement du Nouvel Âge et de beaucoup de religions, c'est cela. Nous avons Dieu habite en nous. Peut-être pas grandement, mais il y a une étincelle. Quel mensonge! Il n'y a pas d'étincelle. Nous sommes morts dans nos fautes et dans nos péchés. Et pas, notre esprit n'est pas en communion avec Dieu à cause de notre péché. Et pour être en communion avec Dieu, il faut naître de nouveau. L'homme pécheur ne peut pas être en communion avec un Dieu saint. Ne l'oublions jamais. Et c'est parce qu'on parle du Dieu d'amour. Parce que Dieu est soi-disant amour, oui, il est amour, mais c'est un amour saint. Alors, parce qu'on parle de que Dieu est amour, alors forcément, on peut s'arranger avec lui, on peut lui taper sur l'épaule, et puis on se dit on s'arrangera bien un jour, et qu'on a soi-disant un contact avec lui, c'est pas comme ça que ça marche. Il n'y a pas de communion avec Dieu, avec un Dieu saint comme cela. Il nous faut Jésus. La communion est avec le Père et avec son Fils. C'est le Fils qui nous conduit au Père,
n'est-ce pas, voilà.
Et tous ceux qui croient aller directement au Père sans le Fils se font des illusions. Et ils n'auront jamais cette communion avec le Père qui passe par le Fils. Et regardez ce que Jean dit là. Nous l'avons touché, nos yeux l'ont contemplé. Le verbe contempler, je lisais dans le commentaire, veut dire contempler, c'est le regarder face à face, c'est s'attarder sur ce regard, sur cette personne, sur le mystère de la personne de Jésus. Ils ne nous annoncent pas quelque chose qu'ils ont vécu en vitesse. C'est quelque chose qui a pénétré en eux. Profondément, ils ont contemplé l'admirable, le conseiller, le tout-puissant, le Père éternel.
Amen.
Ils ont contemplé
Amen.
Le merveilleux. Et Jean, nous le voyons quand il écrit cet épître, il est saisi, il est porté par cette communion. Et il dit, je voudrais aussi que vous ayez cette communion, vous aussi, vous aussi. Voyez-vous, le but de tout vrai serviteur de Dieu, c'est de communiquer ce qu'il a reçu. Mais il ne peut pas communiquer ce qu'il n'a pas reçu. Et vous aussi, vous ne pouvez pas communiquer aux autres ce que vous n'avez pas reçu. Si vous ne vivez pas une communion intime avec le Seigneur, vous ne pourrez pas la communiquer aux autres.
C'est vrai.
Que des paroles. Des belles paroles peut-être. Mais la communion intime, c'est autre chose. N'est-ce pas vrai?
Oui, c'est vrai.
Quand vous lisez cela, on pourrait faire un message rien que dans les premiers versets. Nous l'avons vu, nous l'avons touché, nous l'avons contemplé. C'est quelque chose qui l'a saisi, bouleversé, transformé, métamorphosé. Et voilà pourquoi ces premiers chrétiens sont allés jusqu'au sacrifice, jusqu'au martyr. Ils ont vu Dieu manifester son
chair
et sa gloire infinie. Nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique du Père. N'est-ce pas merveilleux? Alors, première communion, la communion avec Dieu par Jésus-Christ. Sinon, il n'y a pas de communion possible. Parce que tout va dépendre de cette communion. Les uns ont la communion fraternelle, mais il n'y a pas de communion avec Dieu. Est-ce que ça marche? Ça ne marchera jamais. Les autres ont la troisième communion. C'est l'évangélisation. On peut évangéliser, c'est bien. Mais s'il n'y a pas la communion fraternelle et la communion avec Dieu d'abord, ça sera bancal. C'est comme un trépied. Un trépied. Voilà, il y a un trépied ici. Hein? Exact. Il est bien ici. Ça tient bien. Ça tient, c'est costaud. Et bien, la communion fraternelle, c'est ça, il y a un trépied. Premièrement Dieu, ensuite la communion fraternelle. Et une fois que qu'on a été béni, Dieu nous bénit toujours pour nous rendre la bénédiction, on devient des partenaires. Pour dans l'évangélisation, dans l'œuvre de Dieu, il y a quelque chose qui se passe. Amen. Première communion avec Dieu. Tout va dépendre dans ta vie spirituelle de cette communion que tu as avec le Seigneur. S'il n'y a pas de réelle communion, tu ne pourras pas communiquer grand-chose que des paroles. Tes paroles seront comme une cymbale qui... Un beau discoureur. Tu parais pour un beau discoureur. Mais tu ne touches personne. Laissez-moi vous dire une chose, mes amis. Ce ne sont pas vos grands discours qui toucheront quelqu'un. C'est ce que vous avez vécu.
Oui, amen.
Bien sûr, de biblique, pas n'importe quoi. Pas raconter n'importe quoi. Il y a d'abord l'enseignement des apôtres. Attention. Ce que tu dis doit être conforme à l'enseignement des apôtres. Mais si ce que tu dis, tu l'as vécu, tu le vis, tes plus faibles paroles auront une portée merveilleuse. Amen. Dieu mettra son onction sur les plus faibles paroles qui sortent de ton cœur sincère et que tu vis. Amen.
Amen.
Mais n'oubliez pas, si vous voulez, si je veux, entre nous, là où vous avez une communion sincère, fraternelle, il faut d'abord veiller à ce que cette communion avec Dieu soit réelle, soit biblique, et ne pas croire n'importe quoi, et sur Dieu, et sur Jésus-Christ, et sur le Saint-Esprit. S'attarder là-dessus, mais on ne peut pas le faire maintenant. La deuxième chose, là c'est un peu là-dessus que je voudrais maintenant, c'est la deuxième koinonia, c'est donc cet amour fraternel, ce partage. Souvent quand on dit communion fraternelle, ce n'est pas assez précis. C'est un partage, une participation. C'est pourquoi, voyez-vous, quand on est là ensemble et qu'on prie, par exemple, normalement, tous doivent participer. Vous êtes d'accord avec moi? C'est ça la participation. Si nous ne participons pas, alors, quelque chose ne va pas. C'est peut-être pour ça qu'on est frustré aussi. Là, la timidité ne joue plus. Si tu as vécu quelque chose, tu ne peux pas te taire. Amen.
C'est vrai.
Alors, la foi intervient. Et l'amour aussi, quand on aime. Avez-vous remarqué, quand deux êtres s'aiment vraiment sérieusement, ils s'arrêtent plus de parler. Allez, ça ne s'arrête plus. Ça ne s'arrête plus. Quand l'amour est là, ça déborde. N'est-ce pas vrai? Si ça ne déborde pas, c'est que l'amour, c'est attiédi. Attiédi. Il faut dire des choses comme elles sont. Ça, c'est attiédi un petit peu. Et ça, c'est un danger, n'est-ce pas, pour chacun d'entre nous. Pour chacun d'entre nous. Et ce partage, cette deuxième koinonia fraternelle, comment est-ce qu'il opère? J'ai noté encore une autre pensée, et ensuite je vais vous donner une illustration qui va bien nous faire comprendre ce qu'est la vraie koinonia, communion fraternelle. Koinonia implique une relation où l'on est prêt à aider. Vous voyez, ça dans la koinonia. C'est que tu as quelque chose, puisque tu es chrétien, tu es soumis au Seigneur, tu aimes le Seigneur, donc il y a cette pensée d'aider, d'être prêt à aider. Vous voyez, cette disponibilité. C'est merveilleux ça. C'est ça la koinonia. Un sens d'égalité. Voyons, on est tous frères et sœurs dans le Seigneur. Il n'y en a pas un qui est plus que l'autre. Nous avons tous été rachetés par le même sang, régénérés par le même esprit.
Amen.
Amen. Amen. Amen. On ira tous à la même maison là.
Ah oui. Amen. Amen.
Par un sens d'égalité parmi les participants et une unité parmi ses membres. Et tout cela, ça crée vraiment une unité. Une autre pensée que je vais vous donner ici. Oui, voilà. Oui. Koinonia, c'est un esprit de générosité qui partage. Et dans la koinonia, il y a un esprit généreux qui partage. En opposition à un autre mot grec, là c'est koinonia, un mot grec qui veut dire préonexia, qui est un état d'esprit qui ne recherche que ses intérêts. Vous voyez, dans le texte grec, il y a koinonia et pléonoxia. Excusez-moi les prononciations, hein, ne vous arrêtez pas là-dessus. C'est le sens qu'on recherche. Mais pour les Grecs, c'était ça. Celui qui n'était pas koinonia, il était l'autre. C'est-à-dire que celui qui n'était pas généreux, qui n'était pas ouvert aux autres, eh bien, il était autrement, il ne vivait que pour lui-même. Et celui qui ne vit que pour lui-même, vous êtes d'accord avec moi, c'est le plus malheureux. Quelqu'un qui est égoïste, vous n'arriverez jamais à le satisfaire. Jamais. Et en cela, j'ai une histoire que j'avais lue il y a des années en arrière, mais peut-être qu'il est bon de la dire maintenant. Peut-être que vous l'avez entendu, mais il est bon de la réentendre. C'est une histoire, je crois, d'un chrétien qui avait eu un rêve, une vision. D'un seul coup, il voit une vision, une scène en enfer. En enfer. Et là, qu'est-ce qu'il voit ? Une table qui est dressée, et tout autour des personnes qui avaient vraiment mauvaise mine, et qui étaient tous en colère, très, presque méchants. Et entre leurs mains, ils avaient une fourchette. Et au milieu de la table, il y avait un plat de riz. Mais leur fourchette, ce n'était pas une de nos fourchettes, comme ça. C'était une fourchette qui faisait à peu près 1,50 m de long. Et alors avec cette fourchette-là, ils voulaient se servir et ramener la fourchette dans leur bouche. Mais comme la fourchette était trop longue, ils n'arrivaient pas à manger. Impossible! Ils mouraient de faim avec le plat de riz qui est là au milieu. Tous étaient comme ça, chacun, avec sa fourchette. De temps en temps, sûrement, c'était pas dans le rêve, ça, j'imagine. De temps en temps, comme quand ils étaient fâchés avec la fourchette, au lieu d'aller là, ça allait sur l'autre. Ça fait crier dans tous les
cas. Ça piquait aussi.
Ça fait piquer un petit peu. Qui s'y frotte, s'y pique. Ça piquait un petit peu. Alors, il a eu cette vision-là. Puis d'un seul coup, il a été transporté comme au ciel. Et là, la même table, avec le même plat de riz. Et autour d'autres personnes, avec des mines radieuses. Tout le monde était content. Alors il a dit, mais comment ça se fait là-bas? C'est la même chose et tous sont frustrés, enfin, en colère.
Ils avaient les mêmes fourchettes.
Et ils avaient les mêmes fourchettes.
Ah, c'est ça.
Et vous devinez comme moi, comment ils ont réglé leur problème. Pourquoi? Ils étaient contents. Là-bas, ils ont tout de suite compris qu'en mettant la fourchette, en voulant se nourrir soi-même, ils n'y arriveraient jamais. Alors ils ont dit, oh, la seule chose qu'il faut faire ici, c'est de penser à l'autre. Et en nourrissant l'autre le nourrissait aussi. En étant généreux, eh bien, cette générosité revenait sur lui. Et c'est comme cela que doit être vécue la communion fraternelle et spirituelle. C'est ça. C'est une communion à double sens. Et c'est là le problème avec beaucoup de chrétiens. C'est des chrétiens à sens unique. C'est toujours bénis-moi. Bénis-moi. Ils ne savent pas conjuguer autrement. Bénis-moi. Partout où ils vont, c'est bénis-moi. C'est tout. Vous voyez, ils sont avec leur fourchette. En train de se... Et c'est pour ça qu'ils se piquent, ils se font mal. Ils sont pas heureux. Ils ne sont pas satisfaits.
Oui, c'est ça.
Parce qu'ils ne pensent qu'à eux. Ce n'est pas cela la communion biblique. La vraie communion. Si tu veux que les autres pensent à toi, tu dois d'abord penser à eux. Tu ne dois rien attendre des autres. Tu dois être généreux, prêt à aider. T'ouvrir toi-même. Dans cette attitude-là, il y a toujours deux extrêmes. Il y a le chrétien qui, lui, se bloque complètement, et puis, naturellement, il ne peut rien recevoir. Et puis, il y a l'autre qui est à l'extrême, qui est ouvert à tout, et qui gobe n'importe quoi. Ça ne va pas non plus. La vraie attitude, c'est celle-là. Dieu t'a donné une fourchette. C'est pour nourrir l'autre en face. C'est cela la communion. Quand on vient à l'église, on ne vient plus en somme pour nous-mêmes. On vient pour le Seigneur et pour être une bénédiction aux autres. Mais celui qui fait cela sera forcément béni lui-même, n'est-ce pas vrai? Même sans demander des bénédictions. Alors, quelle est votre attitude? Quelle est votre conception de la communion? vous faites avec votre fourchette? Vous lui piquez un peu celui avec lequel vous n'êtes pas d'accord. Qu'est-ce que vous faites de son tronche? C'est pour nourrir l'autre. Autrement dit, les talents que Dieu t'a donné. Dieu t'a donné quelque chose. C'est être prêt, disposé. C'était ça la koinonia. C'est un cœur ouvert pour partager. On parlait d'une koinonia dans le mariage aussi. Les Grecs parlaient d'une koinonia dans le mariage. D'une koinonia à vie. Où l'un vivait pour l'autre. Et l'autre vivait pour l'un. Est-ce qu'on vit cela dans les assemblées? Chacun vient avec sa petite fourchette là. Et puis fait des dégâts énormes. Parce que cette fourchette est orientée vers soi-même. Et vers ses désirs, ses intérêts personnels. Il persévérait dans la communion fraternelle. Cette ouverture qui était là, c'est pour ça qu'on vivait comme il s'aime. Et puis, nul ne disait que c'est bien, leur appartenait en propre, voyez-vous. Et dans le mot communion, il y a cette ouverture à l'égard des pauvres aussi. Le Paul en parle souvent des pauvres. Il parle souvent des pauvres. Voilà, un partage, c'est un partage pratique avec ceux qui sont moins fortunés. Paul utilise trois fois ce mot dans Romains 15, 26, 2 Corinthiens 8, 4 et 9, 13, où on voit Paul qui exhorte les chrétiens à partager avec ceux qui sont pauvres. C'est ça la koinonia. Les pauvres dans le Seigneur. Oui, la koinonia, c'est quelque chose de pratique. Pratique. C'est ça qui est extraordinaire. Et pour terminer, donc, la troisième communion, c'est dans Philippiens 1, 5. On peut lire cela pour terminer maintenant. Philippiens 1, 5. Philippiens 1, 5, voici ce que Paul dit. « Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir, verset 3, que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières, pour vous tous, demandant de manifester ma joie au sujet de la part que vous avez, que vous prenez à l'évangile. » Le mot « part » ici, c'est « koinonia ». Avoir part, c'est le verbe. C'est le verbe. Koinonia, c'est le nom. Mais là, c'est koinonen. Mais c'est la même famille. Que vous avez... Vous prenez part à l'évangile. Vous êtes partenaire avec moi. Est-ce que votre communion inclut ce partenariat avec d'autres pour annoncer l'évangile? Connais pas ça. Tu ne vis pas la vraie communion. Cette communion ne fait pas de nous des égoïstes. C'est une communion pratique. Amen. D'abord avec Dieu. Et quand c'est intime avec Dieu, c'est intime entre nous. Dans la vérité, dans la lumière. Et quand on est bien entre nous, alors le message peut passer facilement, n'est-ce pas vrai? Dieu peut nous dire maintenant, tu peux partir et annoncer quelque chose. Parce que tu vis ce que tu dis. Et si tu vis ce que tu dis, tu auras un impact qui t'étonnera même un jour.
C'est sûr.
Chers amis, voilà, c'est quelques mots que je voulais dire. Comment vivre une vraie communion biblique? Comment la vivre? Dans ce mot koinonia, il a une richesse infinie. Puissions-nous méditer là-dessus. Sortir de nos égoïsmes, de nos intérêts personnels, pour nous tourner vers le Seigneur, vers mon frère et vers les autres. Si tu t'oublies toi-même, Dieu ne t'oubliera jamais. Que Dieu bénisse sa parole. Seigneur, merci.
Alléluia, Seigneur.
Cette communion, cette koinonia à laquelle tu nous appelles. Merci de nous sortir de notre égoïsme. Nous ne participons pas grand-chose. Il n'y a aucune contribution, participation, association. On est là isolés. Et c'est comme cela que nous mourrons de faim, comme avec ces personnes avec ces longues fourchettes, à cause de leur égoïsme. Seigneur, merci de nous parler et de nous utiliser Tu nous as donné une fourchette, un talent pour bénir les autres.
Oui, merci Seigneur.
Et ainsi, Seigneur, notre joie sera éternelle. Que ton nom soit béni éternellement. Amen.
Amen. Seigneur, tu connais notre désir d'établir ici un groupe qui soit une vraie koinonia. Un partage dans tous les sens du terme. Afin que nous ayons une communion sans ombre, parce qu'en communion avec toi, et parce qu'en partage les uns avec les autres. Amen. Seigneur, tu nous as à tous donné des talents. Et Seigneur, tu veux que ces talents soient mis à contribution de ton œuvre et les uns pour les autres. Nous te remercions, Seigneur, de ce que tu as déjà appelé certains d'entre nous à s'engager dans l'œuvre compassion. Et merci, Seigneur, parce que tu vas encore nous utiliser davantage dans la mesure où nous mettons tout ce que nous avons à contribution de ton œuvre et des uns des autres, selon les besoins que tu montreras à chacun, selon les responsabilités que tu donnes à chacun, selon les talents que tu as donnés à chacun. Mais Seigneur, tu nous demande de donner ce que nous avons. Et tu nous sensibilises par ta parole et tu nous dis que nous avons tous reçu au moins un talent. Personne n'a rien reçu. Et tu nous appelles à ne pas enterrer ni nos talents, ni ce que nous avons, afin que notre communion soit parfaite. Seigneur, merci d'amener ici encore toutes les personnes que tu voudras engager dans l'œuvre et pour une koinonia, une Amen. Communion intense et vraie en toi, Seigneur.
Amen. Oui,
Seigneur, tu ne favorises pas l'égoïsme.
Amen.
Seigneur, tu veux que nous partagions ce que tu nous as donné et tout ce que tu nous as donné t'appartient de toute
Amen.
Manière. Ne nous appartient pas, notre salaire ne nous appartient pas, nos maisons ne nous appartiennent pas. Il n'y a rien qui nous appartienne, tout appartient à toi. Et nous le mettons à ta disposition et à la disposition des uns et des autres. Alors aide-nous, Seigneur, à mieux partager, à mieux prier les uns pour les autres, mais aussi à mieux participer les besoins, les uns aux besoins des autres, selon ton plan pour chacun. Seigneur, merci pour ce message qui nous éclaire tellement et dont nous avons tellement besoin, afin que chacun ne vive pas égoïstement dans son coin sans demander si l'autre à côté souffre, si notre frère à côté a un besoin. Apprends-nous à être sensible aux besoins de mon frère et de ma sœur, Seigneur, aide-moi, aide chacun d'entre nous, et à être sensible aux besoins de ton œuvre, et compassion, c'est ton œuvre. Merci Seigneur pour tous les engagés et nous voulons profiter de cette occasion pour bénir tous les partenaires qui sont engagés dans l'œuvre compassion, là où ils se trouvent, parce qu'ils sont en koinonia avec nous aussi. Merci Seigneur. Ceux qui travaillent pour toi, ceux qui donnent dans ton œuvre, Seigneur, merci. Bénis-les partout où ils se trouvent. Et nous te bénissons pour tous ceux qui sont engagés. Merci Seigneur. Merci Seigneur que cette équipe que nous formons avec tous ces gens-là aussi puisse se consolider et devenir une vraie koinonia selon ta parole, Seigneur. Merci Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Et le Seigneur m'a donné juste 2-3 paroles pour des situations particulières. Pour une personne au milieu de nous qui est accusée injustement par un de ses proches. Et le Seigneur te dit, même si cette personne te fait du mal et t'accuse injustement, même si elle ne cesse de te blesser, toi, continue de t'éloigner du mal et fais le bien. Continue de poursuivre la paix. Souviens-toi que mes yeux sont sur les justes, sur ceux qui pratiquent le bien. Et mes oreilles sont attentives à leurs prières. Qui pourrait te maltraiter si toi tu fais le bien? car même si tu souffrais pour ce qui est juste, tu serais heureux. Ne crains donc point, et ne sois pas troublé pour toutes les injustices qu'on te fait subir. Au contraire, prie avec compassion pour cette personne, car elle se trouve en mauvaise position et a besoin de toute urgence de tes prières. La prière du juste a une grande efficacité, souviens-toi. Merci Seigneur, c'est vrai. Nous ne voulons pas rendre le mal pour le mal. Nous ne voulons pas avoir de l'amertume pour ceux qui nous font du mal. Seigneur, quels qu'ils soient, nous voulons leur pardonner et continuer de leur faire du bien, déjà en priant pour eux, pour ces personnes. Aide-nous, Seigneur, à aller au-delà de nos souffrances personnelles à cause des blessures que ces personnes nous font. Nous voulons aller au-delà et réagir par amour et par compassion et dans la prière. Louange et gloire à toi. Et puis, une autre parole de consolation pour une personne dans la peine et la souffrance. « Je suis, te dit le Seigneur, ton compagnon le plus proche et le plus fidèle. Chaque jour, je chemine avec toi. Dans tes moments de déception les plus profonds, je demeure pour toi cette étoile qui vient éclairer la nuit. Je suis aussi pour toi ce cœur compatissant qui toujours te pardonne et t'aime. Mon oreille est constamment à l'écoute de chacune de tes prières, même silencieuses. Tu peux continuellement venir déposer tous tes fardeaux, car pour moi, aucun fardeau n'est trop lourd ou trop pesant. Je serai avec toi jusqu'au bout de ton pèlerinage sur cette terre. Ne crains point. Alléluia, Seigneur. Tu connais chacune de nos situations et tu viens aussi nous encourager quand il le faut. Nous dire exactement ta pensée selon des circonstances que nous-mêmes, nous sommes peut-être les seuls à connaître. Mais toi, tu les connais aussi et tu chemines avec nous. Merci, Seigneur. Et puis, une exhortation pour tous les parents ici, nous tous parents ici. Une parole de sagesse de la part du Seigneur qui nous dit, chers parents,